Lors de la soirée d'ouverture du Salon du Livre organisé par l'association Colère du Présent et consacrée à la littérature de critique sociale, au Théâtre d'Arras, Gérard Noiriel, historien et directeur d'études à l'EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, a été invité à donner une conférence pour clôturer la soirée. Cette conférence a été donnée sous forme de synthèse de toute une vie de recherche et d'engagement militant et retracée également les grandes lignes directrices de son dernier ouvrage, Une histoire populaire de la France. Je vous propose donc de revivre cette conférence.
Bonsoir à tous. Bon, je dirais franchement que j'avais préparé de préparer un peu une sorte de conférence donc sur mon dernier livre, donc sur l'histoire populaire de la France, mais ça me paraît pas quand même le cadre idéal après tout ce que nous avons entendu pour faire une sorte d'exposé universitaire. Alors ce que je vais faire, c'est déjà pas parler très 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 longtemps, puis essayer de faire le lien avec ce que nous avons entendu, déjà pour remercier les organisateurs de cette rencontre et de cet événement qui pour moi me touche particulièrement. Je vais en dire un mot tout à l'heure parce que ça fait partie aussi quelque part de mon histoire, cette confrontation, cette alliance entre la réflexion, la littérature, l'engagement et la culture populaire. Moi, je viens de là et j'ai essayé toujours de maintenir ce fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, donc, je suis responsable aussi d'une association d'éducation populaire qui s'efforce de diffuser dans des langages, disons, plus accessibles aux gens qui ne lisent pas forcément nos ouvrages, des connaissances, disons, venant des sciences sociales. Parce que je crois beaucoup à cette dimension-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, qu'il faut repenser aussi la question de l'éducation populaire pour l'adapter aux réalités de notre époque. Et je dirais que cet idéal et cette conviction-là, je le tiens justement de mon parcours, puisque bon, moi je suis issu moi-même d'un milieu populaire, et c'est grâce à des gens comme ça qui ont été autour de moi, qui m'ont donné à la fois le désir, mais aussi la confiance en soi qu'il faut avoir pour franchir toutes les étapes et après pouvoir faire de l'écriture, j'allais dire quasiment son métier, l'écriture et l'enseignement également. Mais je dirais que ma carrière a été aussi complètement déterminée par mon expérience initiale qui s'est développée donc en Lorraine, dans la Lorraine du Fer. Puisque j'étais enseignant dans cette région-là au moment des grandes luttes ouvrières, des grandes grèves de 79-80, au moment qui avait d'ailleurs leur équivalent ici dans le Nord, notamment à Denain, un moment où donc on a eu le plan de restructuration de la sidérurgie qui a liquidé quasiment toute la région, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de sidérurgie. Donc cette période-là, pour moi, a été tout à fait fondatrice parce que, justement, au cours de ces luttes, eh bien, des luttes qui ont été extrêmement intenses, hein, qui ont duré 6 mois, qui ont engagé toute une population, auxquelles j'ai participé moi-même, comme toutes les catégories sociales, je dirais, de la région. Eh bien, ça m'a donné aussi, je dirais, ça m'a fait découvrir, en gros, deux aspirations que j'avais en moi, qui étaient jusque-là séparées, que je ne savais même pas qu'on pouvait combiner. L'une était le goût pour la recherche, pour l'écriture, hein, pour la culture, je dirais, au sens large du terme, et l'autre qui était pour l'engagement civique, la politique, ou voilà. La lutte de l'ONUI m'a fait découvrir qu'on pouvait conjuguer les deux dimensions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette grande lutte ouvrière, elle était complètement incomprise par la plupart des gens qui en parlaient, des gens extérieurs à cette région-là, qui, il y avait eu énormément, c'est une lutte qui a été extrêmement connue, le monde a parlé d'une république populaire de l'ONUI hein, pendant ces événements, et donc on a eu énormément de journalistes, de sociologues, de gens qui venaient de Paris ou d'ailleurs. Et la plupart d'entre eux n'arrivaient pas à comprendre la raison de cette intensité de la lutte, parce qu'ils réduisaient cette lutte à une dimension strictement économique, c'est-à-dire la lutte pour l'emploi, qui était évidemment un enjeu majeur, initial, mais qui ne se résumait pas à cela. En fait, en vivant sur place et en travaillant aux côtés des ouvriers, de leurs enfants aussi, puisque mes élèves étaient des enfants de sidérurgistes, j'ai découvert que, si vous voulez, au-delà de l'emploi, c'était leur identité collective qui était en jeu. D'où le slogan, d'ailleurs, majeur, qui était « Nous voulons vivre, étudier, travailler au pays ». Et ce slogan-là avait un sens tout particulier dans cette région parce qu'il se trouvait que c'était aussi l'arrondissement de France où le taux d'immigration avait été le plus important tout au long du XXe siècle. Donc, ces générations de travailleurs qui venaient de tout pays, au départ des frontaliers, belges, luxembourgeois, et puis ensuite des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Arméniens, des Russes, des Algériens, des Marocains, etc., eh bien, s'étaient fondus dans une société commune qui était une société ouvrière, c'est-à-dire aussi où les valeurs centrales, c'était les valeurs du travail, de la solidarité, de la lutte. Et c'était ça qui était brutalement menacé, détruit par ce plan brutal imposé de Bruxelles, donc qui réduisait leur vie à néant, et qui finalement détruisait aussi le sens qu'ils avaient donné à leur vie. Donc, moi, je dirais, ma vocation d'historien est née à partir de ce moment-là, parce que j'ai décidé de faire ma thèse sur l'histoire de ce bassin ouvrier, de ces hommes du fer. Donc, et j'en profite pour le dire, puisqu'il se trouve que cette thèse, qui date de 1984, elle est rééditée, les éditions Agon l'ont rééditée, elle vient de ressortir, donc j'ai fait une nouvelle préface qui fait aussi le lien entre la crise des années 80, disons, et aujourd'hui, montrer aussi ce qu'est devenue cette région et les transformations et tous ces espoirs vains qui ont été diffusés dans la région pour faire croire aux gens qu'on allait reconstruire une industrie, enfin bon, et tout ce qui était évoqué dans ce magnifique témoignage littéraire qu'on a entendu, c'est-à-dire la précarisation du travail, la destruction des collectifs ouvriers, eh bien c'était tout ça qui était en jeu dans la lutte de Longwy. Voilà, ça a été pour moi le point de départ, je dirais, sur mes engagements à la fois scientifiques, puisque donc je suis devenu un historien des classes populaires, mais aussi de l'immigration, puisque ce que j'avais observé en Lorraine, finalement, ensuite, je l'ai généralisé et j'ai montré que ça avait une valeur bien plus large que la Lorraine, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle donc le Creuset français, qui est une histoire de France vue par le biais de l'immigration, où j'ai montré que finalement la France était un des pays qui devait le plus à l'immigration au XXe siècle au monde, puisqu'en 1930, le taux d'immigration était supérieur en France, même aux États-Unis. Donc ce n'est pas ici, évidemment, dans le Nord-Pas-de-Calais, où je vais avoir besoin de faire de grandes démonstrations pour vous convaincre de cette réalité-là. Mais disons que voilà, ça a été pour moi donc des tournants tout à fait essentiels. Et ensuite, l'autre dimension que j'ai aussi acquise à ce moment-là, c'est de garder toujours un pied dans le domaine associatif, donc de l'éducation populaire. Donc en Lorraine, on a créé une association. C'est pour ça que vos initiatives me rappellent tout à fait ces expériences que j'ai vécues là-bas, puisque nous avons créé nous-mêmes une association culturelle qui rassemblait les différentes composantes de la population, une association qui a duré 10 ans, où on a fait beaucoup d'études sur le patrimoine local, sur la mémoire ouvrière, ou des publications aussi de poèmes, d'ouvriers, des gens qui se sont découverts aussi des talents qu'ils avaient en eux, mais qui n'avaient jamais pu exprimer publiquement parce que justement il y avait cette espèce de ghetto du travail qui était cette région-là et que la lutte avait permis justement de faire exploser, de donner donc la parole à des gens qui ne l'avaient jamais eu. Et le lien avec cette dimension culturelle, il a été très important par un événement qui m'a marqué, comme il a marqué tous les gens de la région, ça a été la création de la radio Lorraine Cœur d'Acier. C'était l'époque, bon, les anciens s'en souviennent, où les radios libres, je dirais, étaient illégales. Donc il y avait un certain nombre de militants anarchistes, etc., qui faisaient des petites radios, qui étaient pourchassés par les CRS, etc. Là, la radio Lorraine Cœur d'Acier, ça a été un engagement majeur, puisque c'est la CGT qui a décidé donc d'assumer cette illégalité, c'est-à-dire de faire exister une radio. Et c'est un journaliste extraordinaire qui est un ami, que je vois toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle Marcel Tria, qui a animé, qui a porté cette radio, qui était vraiment une radio ouverte à tous, absolument sans censure, où tout le monde pouvait participer. Et il y a eu donc un engouement extraordinaire à tel point que la lutte, et ça rappelle ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes. C'est pour ça que j'ai écrit un petit essai sur les Gilets jaunes, parce que je retrouve dans les mouvements des Gilets jaunes des éléments que j'avais découvert déjà à Longwy, y compris dans les actions parfois violentes, puisqu'à Longwy, ça a été aussi, je me souviens très bien, une sorte de décalage qui a existé entre la base ouvrière qui était en lutte et les organisations, parce que les gens à la base disaient on en a marre de faire des journées de grève qui servent à rien, des manifestations pacifiques où personne ne nous écoute, on va faire des opérations coup de poing. Et Longwy, pendant 6 mois, ça a été un haut lieu des opérations coup de poing, avec du minerai déversé sur la place publique, avec l'occupation du relais télé, avec des attaques du commissariat de police, etc., etc. Des choses qui ont eu donc un impact médiatique et qui rappelaient, qui étaient une sorte un peu prémonitoire aussi sur la crise du mouvement ouvrier qui n'a fait que s'aggraver par la suite et qu'on vit aujourd'hui. Et on a retrouvé ces éléments-là dans les mouvements des Gilets jaunes. Et en même temps, eh bien, la revendication de la parole, prendre la parole, exister, sortir justement de l'invisibilité pour s'exprimer par soi-même. Ça, ça a été des choses tout à fait fondamentales grâce à cette radio-là. On a eu donc une effervescence, une explosion de prises de parole qui ont révélé même à la population locale des formes de domination aussi qui existaient au sein même de ces classes populaires, notamment le clivage avec les travailleurs immigrés. Le premier livre que j'ai écrit, moi, c'est un livre militant qui s'appelle « Vivre et lutter à Longwy ». Je l'ai écrit avec un immigré marocain qui était ouvrier donc, à Usinor et qui était responsable CGT, où il explique là-dedans, il décrit aussi les formes de discrimination qu'il pouvait subir, y compris même au sein du syndicat. Et puis, il y a eu aussi par exemple, d'autres choses importantes, ça a été eh bien, les relations au sein des couples, parce que le paternalisme dans cette région-là avait construit une division sexuelle du travail, si vous voulez, où bien l'homme était à l'usine et la femme au foyer. Et tout ça, disons, a aussi explosé. Donc ça a été, on voit très bien quand on a une lutte collective massive qui se développe, c'est voilà, une explosion de revendications, d'aspirations et le désir que ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est aussi très important. C'est d'ailleurs la même chose, c'est en 1936 d'ailleurs, hein, où les ouvriers continuent à faire grève. Ils avaient obtenu satisfaction, mais ils continuent à faire grève parce qu'il y avait une nouvelle société qui s'était construite pendant même le mouvement, sortie de l'isolement, solidarité, fraternité, etc. Donc tout ça, on l'a vécu, et pour moi, ça m'a profondément marqué. Et donc j'ai voulu toujours ensuite donc garder cette double dimension, c'est-à-dire un pied dans la recherche sérieuse. Bon, j'ai eu beaucoup de chance puisque dans ma carrière, puisque j'ai accédé après à des institutions prestigieuses à Paris. Mais en même temps, je crois que pour rester vivant dans ce monde-là, dans ce monde académique, il faut savoir aussi garder un pied à l'extérieur. Donc, j'ai toujours gardé voilà, ce pied dans le mouvement associatif. Et je continue maintenant. Et le spectacle, ce qu'on appelle des conférences gesticulées, que nous faisons actuellement un peu partout en France, qui s'appelle donc « Quand le peuple gronde », eh bien, qui est une tirée de mon ouvrage sur l'histoire populaire de la France, mais dans une forme, justement, qui peut être plus directement accessible ou intéressée, je dirais, des jeunes. On tourne beaucoup dans les lycées, dans les collèges, dans les centres sociaux, etc. Parce qu'il faut aussi s'adapter. Parce que le mot populaire, vous savez, il est polysémique. Il faut l'affronter pour voir aussi ses limites. Il suffit pas de dire qu'on écrit un livre. Il suffit pas de mettre le mot populaire dans le titre pour toucher le public populaire. Donc, j'en viens donc un petit peu à la thématique que j'ai développée dans mon Histoire populaire de la France, qui pour moi est un petit peu une somme ou un bilan de 40 ans de recherche, donc dans laquelle j'ai intégré un certain nombre de travaux que j'avais pu faire avant, mais y compris où j'ai voulu rendre hommage, disons, à tous les gens avec qui j'ai travaillé, notamment mes étudiants, les gens qui ont fait des thèses avec moi, les collègues avec qui j'ai travaillé, parce que la recherche savante, c'est une démarche collective. C'est pour ça que j'aime bien, moi, l'expression « travailleur », le terme « travailleur de la preuve », on dit parfois pour les historiens. Ou l'atelier de la recherche. Il y a des termes qui viennent du vocabulaire du travail, du monde du travail, qui existe dans notre métier et qui rendent bien compte aussi du fait qu'on ne produit rien de sérieux si on travaille tout seul. On n'est pas des écrivains. Le chercheur n'est pas dans la même logique que le poète ou que l'artiste. Il est dans une logique aussi qui nécessite du travail collectif. Donc c'est pour ça que dans cette histoire populaire, j'ai voulu aussi rendre hommage à tous les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont aidé, et souvent dont les travaux ne sont pas connus. parce qu'il y a une énorme injustice. C'est aussi un enjeu de lutte, je trouve. C'est que les gens qui ont plus accès aux médias, qui vendent le plus de bouquins, etc., bien, c'est comme peut-être aussi en littérature. Je suis mal placé, je connais assez mal le domaine, mais je suis de Vaudor, c'est un peu la même chose. Ce ne sont pas forcément les plus savants, les plus compétents, les plus innovants, etc. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et c'est pour ça que c'est très important que des salons comme le vôtre, du livre, des festivals, existent, parce que c'est un enjeu aussi de lutte et on a besoin aussi de cette solidarité pour pouvoir continuer. Parce qu'autrement, bon, il y a un peu, moi je le vois dans notre métier, parfois le désespoir du chercheur de fond, si vous voulez, des gens qui pendant des années travaillent sur des sujets très pointus et qui n'ont pas de public, c'est terrible, ou qu'un tout petit public qui est celui de leurs étudiants, donc une petite fraction généralement de gens quand même favorisés, bon, donc ils n'arrivent pas à toucher de public plus large. Donc moi, voilà, j'ai toujours eu ce souci aussi de transmettre les connaissances que j'élaborais dans des langages qui ne soient pas le langage universitaire spécialisé, disons. C'est aussi ce qui m'a amené, par exemple, c'est un travail qu'on a fait dans notre association d'éducation populaire aussi autour du clown chocolat. C'est-à-dire, c'est nous qui avons redécouvert cet artiste dans le cadre d'un projet qu'on avait pour sensibiliser le public à la question des discriminations et du racisme. Donc, mes amis artistes m'ont demandé si je ne connaissais pas un personnage qui pouvait nourrir une histoire permettant d'évoquer tout ça. Et donc, je me suis souvenu d'avoir lu une petite note de bas de page autour d'un certain clown chocolat. Et donc, en tirant ce fil, on a découvert une histoire tout à fait extraordinaire. Et c'est à partir de notre spectacle, moi j'ai écrit deux livres sur lui, et qui a été fait le film que vous connaissez peut-être, avec Omar Sy dans le rôle titre, réalisé par Roche Dizem. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que voilà, l'éducation populaire, c'est un enjeu majeur, mais il y a encore aujourd'hui pas mal de possibilités, quand on y croit, quand on est prêt à y consacrer du temps et de l'énergie, pour tisser des liens entre tous les éléments de la chaîne. Parce que ça, c'est extrêmement important aussi. Ce sont des enjeux culturels qui sont aussi des enjeux politiques. Et c'est pour ça que l'ouvrage que vous avez retenu de Joseph Pontus me semble tout à fait important, parce que, je dirais même en tant qu'historien, moi j'ai une grande référence, j'y pensais en écoutant les extraits qui étaient cités tout à l'heure, c'est la référence de Georges Navelle. Georges Navelle, c'est un grand écrivain ouvrier qui lui-même raconte ses expériences d'usine à une autre époque que celle d'aujourd'hui. C'est l'époque de l'entre-deux-guerres, je dirais, mais qui lui aussi venait de la sidérurgie lorraine, et qui, c'est un témoignage aussi extraordinaire comme source pour l'historien. Il ne faut pas oublier ça. C'est que très souvent, le problème de l'historien qui veut travailler sur l'histoire des classes populaires, c'est qu'il a peu de documents. Sur les dominants, on a pléthore de mémoires, de récits, de descriptions, d'archives de toutes sortes. Mais pour faire l'histoire des vaincus, ben très souvent, les vaincus ne laissent pas de traces. Donc, il faut aussi encourager ceux qui sont dans des situations, dans des positions d'être dominés, je dirais, de pouvoir encourager les formes d'expression qui ont leur préférence, parce que c'est aussi des moyens de construire un savoir pour donc donner une vision de la société qui soit moins tronquée. Donc tout ça, pour moi, sont des éléments extrêmement importants, et j'essaye donc de les combiner. Et mon histoire populaire de la France, je suis revenu sur toutes ces questions-là, ne serait-ce que dans le titre, puisque c'est un titre qui peut paraître très simple, très évident, mais en fait, chaque mot est un piège. Par exemple, le mot « histoire », c'est un mot extrêmement compliqué, et qui nous empoisonne, parce que finalement, toute personne qui publie un écrit sur le passé peut se dire historien. Donc vous avez des gens comme Éric Zemmour qui peut parader en se disant historien, vous voyez, et nous donner la leçon, même comme il essaie de le faire dans son dernier bouquin. Donc si vous voulez, voilà, nous on se bat aussi pour préserver l'autonomie de la recherche savante, c'est-à-dire la recherche historique, pour moi, elle n'est pas là pour énoncer des jugements de valeur. Elle est là pour expliquer le passé, le comprendre, mais pas le juger. Il y a un autre rapport au passé qui est tout à fait légitime, hein, mais qu'il faut différencier de l'histoire, c'est la mémoire. C'est-à-dire les enjeux de mémoire, oui, dans les enjeux de mémoire, on va proposer ou élaborer des jugements de valeur, on va énoncer, trouver des coupables, des responsables, des victimes, etc. Mais ça, ce n'est pas le rôle de l'historien. Notre limite à nous, elle est dans c'est pas forcément évident, on est souvent sur le fil du rasoir, mais quand même, de rester dans l'analyse, l'explication, la compréhension. Donc ça, c'est un point que j'aborde dans le livre en distinguant sur plusieurs problèmes qui sont bien connus, que ce soit l'esclavage, le colonialisme, ou Vichy, etc. Comment on se situe en tant qu'historien par rapport à la démarche mémorielle. Un autre enjeu, évidemment, c'est le terme même de populaire. Donc pour moi, je dis que, enfin, mon approche, je n'établis pas une équivalence entre le populaire et les classes populaires. Pour moi, le populaire, c'est une relation sociale. Une relation sociale qui est une relation aussi de pouvoir, on pourrait dire, entre les dominants et les dominés, qui peut aussi se manifester par de la solidarité. Mais si on ne voit pas la liaison entre les élites, je dirais ceux d'en haut et ceux d'en bas, on ne peut pas vraiment comprendre non plus les classes populaires. Parce que ce que je montre dans le livre, par exemple, c'est que les classes populaires n'inventent pas, la plupart du temps, les références, les langages, les représentations qu'elles véhiculent. Ce sont toujours des constructions qui viennent d'en haut. Ce que font les classes populaires, c'est qu'elles se les approprient. Et en se les appropriant, elles en font des instruments de lutte, elles les transforment. Ce qui, du coup, a un effet aussi sur les élites. Et je termine mon livre dans la conclusion en évoquant la façon dont notre président de la République actuelle évoque dans son programme présidentiel qui s'appelle Révolution l'histoire de France, ce qui est complètement frappant, je dirais, sans faire du tout de polémique, mais par une simple analyse historique d'un document, c'est de voir que dans son programme, il n'est absolument jamais question des classes populaires. Pour lui, l'histoire de France s'explique uniquement par les élites, par les entrepreneurs, par les ingénieurs, etc. etc. Donc quand on a un tel aveuglement sur le rôle des classes populaires dans l'histoire, évidemment, on ne peut pas être étonné de voir que sur le plan politique, ça puisse avoir des conséquences. Donc le mouvement des Gilets jaunes nous a aussi rappelé ça, puisqu'on a vu comment le désarroi que ça a pu susciter chez les élites, du fait même que des gens qui étaient invisibles puissent prendre la parole. C'est pour ça que je crois que c'est un enjeu majeur, y compris pour faire progresser la démocratie, et que les progrès de la démocratie, tout le monde y a intérêt finalement, pas uniquement les classes populaires. Donc c'est dans cette dialectique, je dirais, que je me situe pour situer justement les apports des uns et des autres, les confrontations, les formes de domination multiples qui peuvent exister, mais aussi les formes de solidarité et les progrès que ça peut fournir à une société. Et ça, c'est évidemment là où le lien entre le passé et le présent est important, c'est que tout ce passé-là, il a tendance à être oublié, occulté, y compris dans le champ de la recherche historique. Je veux dire, il y a eu, au cours des 20 ou 30 dernières années, un recul, par exemple, de l'histoire sociale, un recul de l'histoire populaire chez les universitaires. Donc j'ai écrit aussi ce livre pour essayer de redonner aux jeunes chercheurs, aux générations ultérieures, l'envie de travailler sur ces questions-là. Alors évidemment, les choses évoluent. Un enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'articuler les différentes formes de lutte, celles qui vont concerner les luttes, comme on dit, des minorités, également les luttes féministes, les luttes sociales, etc., d'établir un fil conducteur. Mais ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin-là, c'est de montrer que le social était le fil conducteur le plus important, je dirais, pour réunir l'ensemble de ces dimensions-là. Et ça, je vais terminer là-dessus, ça explique aussi la tonalité de mon histoire populaire de la France par rapport à la commande qui m'avait été faite. Parce qu'au départ, ça fait il y a une dizaine d'années à peu près, c'est une commande donc des éditions Agone qui venait de publier l'édition française du fameux livre d'Howard Zinn qui s'appelle « Une histoire populaire des États-Unis ». J'étais très honoré qu'ils aient pensé à moi pour faire ça, mais quand j'ai travaillé plus précisément, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire ce qu'avait fait Howard Zinn. Alors même que, j'allais dire, que pour rester fidèle à la posture d'Howard Zinn, c'est-à-dire ce que j'admirais le plus chez lui, c'est-à-dire cette démarche d'historien engagé, c'est-à-dire quelqu'un sérieux du point de vue de la recherche historique, mais engagé aussi sur le plan civique, eh bien, si je voulais rester fidèle à ça, je ne pouvais plus faire comme il avait fait. C'était ça le paradoxe. Pourquoi ? Parce que Howard Zinn, il a écrit son histoire populaire dans les années 70. Je me souviens de cette époque, j'étais étudiant à cette époque-là, c'était une époque quand même très favorable du point de vue des luttes sociales. Moi, j'étais déjà militant, étudiant, et je dirais qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de répéter toutes les 5 minutes « convergence des luttes », parce qu'elles convergeaient, j'allais dire, quasiment d'elles-mêmes, entre le militantisme contre les inégalités sociales, contre les discriminations racistes, contre le sexisme, etc. Il y avait des convergences et un immense espoir qu'on partageait tous, qui était lié en France aussi au fait qu'il y avait eu l'alliance des partis de gauche, donc le programme commun, etc. Et cette période-là, qui était un petit peu la suite de ce qu'on avait vécu en 68, en mai 68, évidemment, on le sent dans le livre de Zinn. Il y a un optimisme quand même dans cet ouvrage, alors que le but civique de l'histoire, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de comprendre le présent, eh bien, évidemment, moi, le problème qu'il fallait que j'essaye d'expliquer aussi, c'est pourquoi ça n'avait pas marché. C'est pourquoi on en est aujourd'hui dans une situation qu'il faut bien dire est très, bon, très angoissante par beaucoup d'aspects au niveau du recul l'aggravation des inégalités sociales, la précarisation du travail, les problèmes écologiques, la montée des ce qu'on appelle les populismes, la difficulté de créer des fronts communs contre les formes de domination, tout ça, c'est des choses qu'on vit, nous, complètement tous les jours. Donc ça a été aussi une dimension qui m'a amené justement à défendre l'idée qu'il fallait remettre, je dirais, la question sociale au centre du jeu et de fédérer toutes les autres causes autour si l'on voulait vraiment retrouver un peu d'espoir. J'ai publié ce livre 3 mois avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, ça a été très, très utile pour la promotion de mon bouquin et la diffusion un peu de cette thématique. Parce que voilà, c'est vrai que malgré tous les discrédits qui ont été portés autour de ce mouvement, les tentatives de présenter ce mouvement comme un mouvement de casseurs ou de racistes, etc., le cœur du problème, il est bien d'ordre économique et social. Et donc là, on a un moyen de faire le lien entre une démarche qui relève de la recherche historique ou sociologique, une démarche culturelle et également une démarche citoyenne, civique, qui permette aussi d'espérer que les prochaines échéances que nous aurons, en termes de mois ou d'années, seront plus favorables que celles qu'on a vécues dans le passé. Voilà, je vous remercie. Thank you.